L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Juliette Branger, doctorante en histoire et archéologie, qui consacre un chapitre de sa thèse aux travailleurs civils employés à la carrière du camp de concentration, le Schutthof à Natzwiller. Juliette Branger, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes alsacienne, vous travaillez ici à Strasbourg. Alors, vous avez un passé déjà dans cette carrière du Schutthof. Vous avez travaillé avec Michael Landolt, l'actuel directeur du CRD, le Centre européen du résistant déporté. Quel est votre lien aujourd'hui avec ce site du Schutthof tristement connu ?
Alors oui, je suis actuellement doctorante rattachée à la fois à l'Université de Strasbourg en histoire et en archéologie et à Archéologie Alsace, qui est une entreprise, enfin une collectivité territoriale qui intervient pour les chantiers de fouilles en Alsace. Et je travaille dans le cadre de ma thèse sur les espaces économiques, les espaces de travail dans les camps de concentration. Et dans ce cadre, j'étudie en partie la carrière du camp Natzwiller Schutthof, où on réalise des fouilles archéologiques en fait depuis l'été 2020. Donc ça fait 5 ans qu'avec Michael Landolt, qui est actuellement directeur du CERD, on réalise un chantier pendant un mois, au mois d'août, avec des étudiants qui viennent de la fac de Strasbourg, mais aussi d'autres facs.
Donc c'est devenu un lieu de travail et d'études pour les étudiants. Cette carrière, au départ, c'est une carrière de granit rose, donc où il y a des employés civils de la vallée de la Bruche, de Schirmeck, qui ont été employés à chercher ce granit rose. Dans un deuxième temps, c'était... vous allez nous expliquer, dans un deuxième temps, après la mise en fonction de ce camp de concentration en 1942, les civils de la vallée de la Bruche ont continué à travailler à côté des déportés, et qu'est-ce qu'ils y faisaient ?
En fait, l'histoire, elle commence déjà avant l'installation du camp. À l'hiver 1940, il y a une prospection géologique qui va être réalisée par un SS qui était ingénieur des mines, qui s'appelle Karl Blomberg. Il va venir dans la vallée, à Natzwiller, il va réquisitionner déjà des civils, et il va leur demander de faire, pas comme un peu les archéologues, ce qu'on fait l'été, ils vont faire des sondages, des trous dans la montagne, et essayer de regarder si le granit rose, il est exploitable ou pas. À la suite de ça, ils vont rendre un rapport, en fait. Et ce rapport, il va dire que le granit rose, il est exploitable, on peut en faire des blocs pour faire des monuments. Et c'est ça, c'est ce rapport qui va conduire à la création du camp de concentration et l'arrivée des premiers déportés en mai 41. Donc ces premiers civils, ils avaient été réquisitionnés une première fois pour ces sondages. Et la SS...
Réquisitionnés, parce qu'à ce moment-là, l'Alsace était allemande.
Oui, c'est ça. Ils sont pas volontaires pour travailler dans la carrière, on leur demande de venir travailler. Certains travaillent dans des entreprises de carrière, certains sont au chômage et donc ils vont aller à Schirmeck pour dire qu'ils sont au chômage et on va leur dire vous allez travailler pour la DEST. La DEST, c'est la Deutsches Erd- und Steinwerke, qui est une entreprise de la SS qui s'implante dans les camps pour faire de la création de matériaux de construction et utiliser la main-d'œuvre des déportés. Donc ils sont pas volontaires pour travailler dans ces camps, ils sont obligés, on leur demande d'y aller.
Avec le recul aujourd'hui, on a des monuments qui sont construits à Strasbourg ou dans la vallée de la Bruche avec ces blocs de granit rose.
Alors c'est très très difficile à savoir. En fait, on n'a pas les livres de vente ou de recettes de ce granit rose. On n'a pas d'archives, donc on essaye de retracer archéologiquement où est-ce que ça a pu partir. Et pour l'instant, le seul endroit où je peux attester qu'il y a du granit rose, c'est dans le camp en lui-même. Dans les fondations des baraques, tout ce qui est système routier qui a été créé depuis Natzwiller pour monter jusqu'au camp. Tout ça, c'est du granit rose qui a été extrait par les civils et les déportés. Mais j'ai aucune trace de vente vers l'extérieur et je peux citer aucun monument, aussi bien à Strasbourg, en Allemagne, avec du granit rose. Ça fait partie encore un peu des vides, des choses qu'on n'arrive pas à combler, même en faisant des recherches archéologiques et même en faisant des recherches d'archives. Pour l'instant, on est incapable de dire où part ce granit.
Vous recherchez justement, alors on va faire dans un deuxième temps, on y viendra, un appel à témoins de renseignements, de ce genre de documents, de photos, de témoignages, de descendants, de ces ouvriers qui ont travaillé à ce moment-là au camp du Schutthof. Alors, vous le disiez, ils sont arrivés pour le granit rose. En 42, ils vont commencer à travailler avec des déportés.
Oui, c'est ça. Au départ, ils sont à peu près 200 travailleurs civils. Il n'y a pas de déportés. À partir de mars 42, les premiers déportés vont être affectés à la carrière. Donc, vont se côtoyer à la fois dans la carrière des civils qui ont des professions en lien avec la carrière et des déportés qui souvent avaient des professions avant-guerre qui n'ont rien à voir avec le métier de carrier. Donc, on va avoir un peu une division du travail entre déportés qui vont être manœuvres, à qui on va faire pousser des wagonnets, taper sur des cailloux, et les civils qui, eux, ont des professions en lien avec cette carrière et vont avoir un peu un rôle de contremaître, en tout cas d'apport technique. Et à partir de 1943, avec l'avancée de la guerre, l'avancée du conflit, on va demander à la DEST de changer sa production économique. On va lui dire que finalement, créer du granit rose pour faire des monuments, c'est plus trop la priorité avec le conflit. Et là, elle va se mettre en lien avec l'entreprise Junkers, qui était installée à la Méno à Strasbourg. Et on va envoyer des moteurs d'avion qui ne fonctionnent plus à la carrière au camp de Natzweiler, et on va faire démonter ces moteurs aux déportés, mais aussi aux civils. On va toujours garder, même en 1943, avec ce changement d'activité, les déportés qui côtoient les civils.
Et les carlingues en aluminium qui serviront à faire d'autres objets. Enfin, c'est des traces, ça, qu'on a retrouvées, et de cadeaux entre ces ouvriers et les déportés.
Oui, une des seules traces qu'on a entre, de communication, on va dire, en fait, finalement, entre ces déportés et ces civils, c'est les objets qui ont pu être faits par les déportés et donnés aux civils en cadeau, parce que les civils les ont peut-être mieux traités, les ont laissés se reposer ou leur ont donné à manger. Et donc, en échange, les déportés ont découpé des morceaux d'aluminium, ont fait des boîtes de cigarettes, ont créé des petits objets personnalisés avec des décors gravés ou des noms, des prénoms, des portraits, et les ont offerts à ces civils. Et ces objets, on les retrouve encore dans des familles dans la vallée de la Bruche, et c'est fait partie de ces témoignages, de ces traces de la présence des civils dans la carrière aux côtés des déportés.
Ces objets que vous avez retrouvés aujourd'hui, ils sont dans les familles. Comment est-ce que vous en avez pris connaissance grâce à cet appel à témoins que vous avez fait passer dans la presse locale?
Oui, en partie... En partie grâce à des conférences que j'ai pu faire dans des salles des fêtes ou dans des médiathèques, et ça a permis à certaines personnes de se rendre compte en fait que je parlais potentiellement de leurs grands-parents, et en partie aussi l'appel à témoins qui est passé dans les DNA et qui demande aux habitants de la vallée si leurs grands-parents n'étaient pas potentiellement des travailleurs civils. Et donc s'ils me contactent et qu'ils ont des choses à me dire, j'essaye de me rendre chez eux, on discute de ce qu'ils savent, de ce qu'on peut transmettre leurs grands-parents, et potentiellement parfois ils ont des objets, soit en aluminium, parfois aussi en lamellé collé, qui était le matériau pour faire les hélices d'avion.
C'est une preuve, ça, de la bonne relation entre ces ouvriers et les déportés. Il y a des vraies relations d'amitié, ou peut-être de, pas de remerciement, mais de reconnaissance qui s'est créée entre les deux parties.
Oui, il y a des relations amicales qui se sont créées, et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas du tout en commençant les recherches sur la carrière. Déjà, on ne s'était pas rendu compte à quel point ils étaient aussi nombreux, ces civils, dans la carrière. Et en plus, là, on se rend compte qu'il y avait des véritables échanges entre déportés et civils. Certains sont devenus amis et le sont restés après-guerre. On a le cas, par exemple, d'un civil qui s'appelle Joseph Stadler, et qui était contremaître dans la carrière, et qui a fait un petit carnet pendant la guerre, et qui a noté les adresses de déportés avec qui il avait dû pouvoir communiquer. Et après-guerre, ces déportés, ils sont revenus chez lui en vacances. Donc, on a un cas d'un déporté allemand qui était témoin de Jéhovah et qui est revenu tous les ans à Grendelbruch pour voir Joseph Stadler, parce qu'ils étaient devenus amis.
Cette vallée de la Bruche aujourd'hui, elle est clairement imprégnée, on va dire, de l'histoire de ce camp de concentration, hein, le seul camp de concentration et d'extermination, il faut le dire aussi, en France aujourd'hui. Elle est imprégnée, cette vallée de la Bruche, aujourd'hui encore. Alors, vous faites, vous, des appels à témoins, vous le disiez, vous allez dans les familles, vous rencontrez les descendants, peut-être encore aujourd'hui quelques personnes vivantes. Ça commence à être un petit peu plus compliqué, j'imagine. Quel est votre ressenti? Comment est-ce que les gens, aujourd'hui, portent cette histoire, aussi douloureuse soit-elle?
En fait, jusqu'à maintenant, les habitants de la vallée de la Bruche avaient c'était un peu tabou cette histoire du camp Natzweiler, parce que finalement c'est pas totalement leur histoire, parce que c'est pas les Alsaciens qui ont été déportés dans le camp, et finalement l'histoire des Alsaciens c'est plutôt le camp de Schirmeck qui est un camp de rééducation pour les Alsaciens mosellans. Et donc jusqu'à maintenant il y avait un peu un côté tabou et un peu un côté double histoire, le camp et les habitants. Et là, cette thématique finalement des civils qui étaient presque 200 à travailler dans la carrière, ça permet de relier à nouveau leur histoire aux habitants de la vallée de la Bruche et celle du camp de Natzweiler. Et j'ai l'impression que c'est une thématique qui jusqu'à maintenant était très taboue, peut-être avec la peur d'être accusé de collaboration après-guerre, comme ces civils, ils ont été amenés à travailler aux côtés des déportés dans la carrière, même si c'était pas leur choix. Je pense qu'il y a eu une véritable peur d'être accusé de collaboration et une sorte de tabou qui s'est créé, et c'est pour ça que jusqu'à maintenant personne n'en parlait vraiment, il n'y avait pas eu de recherche sur le sujet. Et là le problème c'est qu'on intervient un peu tard, parce que les civils ils sont nés en 1890 ou en 1900, donc ça fait très longtemps qu'ils sont décédés. Donc avec un peu de chance j'arrive à voir leurs enfants, mais qui sont nés souvent dans les années 30, donc ils ont 90 ans, on est aussi déjà tout juste. Et donc la plupart du temps, c'est plutôt les petits-enfants que je vois déjà. Et donc on a moins d'informations que si on était intervenu plus tôt, parce que c'est forcément déformé, c'est de la mémoire indirecte, et les grands-parents n'ont pas forcément raconté. Donc
ouais, justement, vous avez le sentiment qu'il y a une transmission de génération en génération de cette histoire-là. On le disait, elle est taboue, il y a une forme d'omerta, il y a des gens qui ne veulent pas y revenir ou qui ne sont peut-être pas fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont ce sentiment d'avoir participé à quelque chose de pas très beau, je ne sais pas comment on peut dire, d'ignoble ou de... Ils ont ce sentiment-là. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a quand même une transmission orale qui s'est faite ?
Ça dépend vraiment des familles. C'est très très variable. Il y en a certaines qui savent rien du tout ou qui savent juste qu'il était à la CAE pendant la guerre, mais ils savent pas plus que ça. Donc c'est vraiment très très limité. Et il y en a d'autres où il y a eu une véritable transmission. Justement, la famille dont je parlais tout à l'heure, de Joseph Stadler, lui a raconté même à ses petits-enfants ce qu'il avait fait. Ils avaient plein d'objets donnés par des déportés à la maison.
Oui, parce qu'il s'est bien comporté, c'est surtout ça.
Oui, mais... pour l'instant, de ce que je vois, en tout cas, de tous les témoignages que j'ai pu avoir, les civils ont eu l'air d'avoir essayé, dans tous les cas, de donner un peu de nourriture, de bien se comporter avec les déportés et d'avoir essayé de communiquer comme ils pouvaient, sachant qu'en phase 2, à la carrière, la plupart des déportés sont soviétiques, polonais, norvégiens, donc il y a aussi le côté barrière de la langue pour pouvoir essayer de communiquer avec eux.
Vous avez fait des fouilles, j'imagine que vous êtes penché sur les archives ici en Alsace, les archives allemandes également ?
Oui, une partie des archives allemandes qui concernent le camp et qui concernent aussi la carrière, elles sont conservées à Berlin au Bundesarchiv. Le seul problème qu'on a justement pour cette carrière, c'est qu'il nous manque une grosse partie des archives qui n'ont pas été conservées. Donc tout ce qui est un peu économie, ce que je disais tout à l'heure, à qui sont vendus ces blocs, il nous manque tout ça. Et tout le système de production, finalement, comment ça fonctionne, quelles tâches ont les déportés, quelles tâches ont les civils, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les archives. Et où justement, le recours aux témoignages, aux descendants de ces civils, ça permet de recoller en partie les morceaux. Et l'archéologie aussi permet en partie de recoller des bouts. Donc finalement, en prenant un peu d'archives, un peu d'archéologie et un peu de témoignages, on arrive à reconstruire l'histoire de cette carrière qui était jusqu'à 2020 un peu totalement oubliée jusqu'à ce qu'on commence le chantier.
Aujourd'hui, dans cette carrière, quelles ont été les trouvailles qui ont été faites là depuis 2020 ou depuis que vous êtes sur le chantier ?
Alors, au niveau objet, ce qu'on trouve majoritairement, c'est généralement plutôt des matériaux de construction en lien avec les baraques qui ont été démontées, un peu d'outillage, des limes, des scies, des morceaux de moteur d'avion, donc des petits écrous, des petits morceaux de tuyaux. Et on trouve rarement des objets qu'on peut mettre directement en lien avec un déporté où on peut dire c'était à telle personne. On a eu une découverte exceptionnelle cet été, donc dernière semaine de fouille cet été, on a trouvé une petite plaque en aluminium, donc un morceau de moteur d'avion, qu'un déporté a découpé en forme de médaillon et sur lequel il a noté son numéro de matricule. Donc on a pu, avec le numéro de matricule, trouver dans les archives son identité. Et donc il s'appelait Ivan Gorgola, c'était un déporté soviétique, donc pour raison politique... voilà, et il venait d'Ukraine il avait à peu près 20-21 ans quand il a été déporté. Donc là, c'était un peu la découverte, on va dire, à la fois touchante, parce que c'est la première fois où on trouve un objet où on pouvait relier directement à quelqu'un, mais aussi intéressante parce que les Soviétiques et les Polonais, c'est les personnes qui sont majoritaires dans le camp au niveau nationalité à Netzweiler, mais c'est aussi des personnes dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant dans les études historiques sur le camp ou dans la muséographie. Donc ça permet de remettre un peu en avant ces déportés.
Ces objets trouvés, vous en faites quoi ?
Alors, ils sont d'abord nettoyés par l'équipe d'étudiants et étudiés, donc on les recense, on essaie d'identifier ce que c'est. Parfois, on n'y arrive pas, parfois on y arrive très bien. Et après, ils sont rangés dans un dépôt archéologique qui est le dépôt à Célesta, le centre de conservation et d'études pour tous les objets archéologiques d'Alsace. Et donc, c'est leur lieu, on va dire, de conservation, mais après, ils peuvent être prêtés dans le cadre de projets d'exposition, par exemple. Donc ça veut dire que, par exemple, cette plaque d'Ivan Gorgola, elle pourrait être prêtée au CERD et être mise dans une vitrine dans le cadre de l'exposition dans le camp.
Dans le cadre de votre appel à témoins, vous, qu'est-ce que vous cherchez précisément de documents ou de photos, peut-être de témoignages oraux également, que les familles peuvent vous apporter ?
Déjà la partie témoignage oral, parce que sur les 200 civils qui étaient à la carrière, j'ai pas de liste en fait, donc pour l'instant j'ai 46 noms. Donc dès qu'il y a une famille qui me contacte et ça correspond pas à un des noms que j'ai dans ma liste, c'est déjà une super information en soi. Tout ce qui va être le témoignage oral qu'on a pu leur transmettre, comment ça se passait, comment il se rendait jusqu'à son lieu de travail, qu'est-ce qu'il a fait exactement comme geste technique. Et après, pour les objets, ça peut être des objets qui ont été donnés par les déportés, donc tout ce qui est boîte de cigarettes en aluminium, n'importe quel objet qui aurait pu être donné par un déporté. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les photos de famille pour pouvoir mettre un visage sur ces civils. J'essaye de faire des portraits de ces personnes, donc de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avant-guerre, comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans cette carrière, et finalement, après la transition après-guerre, comment ça se passe? Est-ce qu'ils retournent travailler dans une carrière, ou est-ce qu'ils changent complètement de métier? Est-ce qu'ils parlent à leur famille, ou est-ce qu'ils ils oublient totalement cet épisode de leur vie? Et dernière chose, si jamais ils sont restés en contact avec des déportés, ce qui m'intéresse aussi, c'est s'il y a eu des courriers, par exemple après-guerre, de remerciements de déportés, des échanges de cartes postales. C'est déjà arrivé dans deux familles que je suis allée voir qu'il y ait des échanges encore jusque dans les années 80 de courriers.
Et puis c'est une période où on gardait les courriers et les cartes postales.
Oui, donc ça fait partie des choses qui peut-être, on va se dire non mais c'est pas intéressant, mais en fait ça m'intéresse parce que ça montre le lien qu'il y a pu avoir entre ces civils et ces déportés, ce lien amical, et ça permet de réhabiliter aussi un peu leur mémoire à ces civils qui n'ont pas voulu parler et qui finalement ont aidé en fait ces déportés.
Alors, votre thèse, les similitudes entre deux lieux de travaux forcés comportant une carrière de granit, Natzwiller et Flossenbürg, vous faites les mêmes recherches en parallèle à Flossenbürg ?
C'est un peu déséquilibré parce que j'ai fait 5 ans de campagne de fouilles à Natzwiller et donc j'ai beaucoup de données archéologiques. À Flossenbürg, j'ai pas fait de chantier archéologique, mais on va dire que le deuxième camp, Flossenbürg, ça me sert de point de comparaison pour pouvoir compléter les choses où j'ai pas de données à Natzwiller. Par exemple, à Natzwiller, on n'a presque pas de photos en fait, de l'espace industriel, de la carrière, des déportés en train de travailler. Alors qu'à Flossenbürg, il y a eu des photos de propagande, de fait. Donc on a des albums photos où on voit les déportés avec les outillages pour faire de l'extraction de granit. Où on les voit avec les machines-outils aussi pour faire de l'assemblage aéronautique. Donc on va dire que le niveau de données n'est pas le même pour les deux, que j'ai fouillé que dans un des deux camps, mais que ça permet de compléter avec les différentes données que j'ai pour les deux.
Et cette thèse, elle est pour quand ?
Alors, il me reste un an. Je devrais soutenir en février 2026, donc encore un an de recherche.
Et vous restez donc sur la carrière du camp du Struthof pour vos travaux ?
Oui, c'est ça.
Avec comme maître de thèse, Michael Landolt.
Michael, il était tuteur de mon master. Et là, actuellement, mon directeur, c'est Alexandre Zumpf, qui est professeur d'histoire contemporaine à Strasbourg.
Autant pour moi. Juliette Branger, alors évidemment, vous avez un domaine, l'histoire et l'archéologie, et une thèse sur un sujet précis. C'est quoi vos motivations? Qu'est-ce qui vous porte? Je voyais vos yeux briller au fur et à mesure du sujet, parce que chaque trouvaille est un trésor, et puis un trésor qui amène à une histoire qui va vers la grande histoire. J'ai du mal ce matin. Vous, qu'est-ce qui vous motive?
Mais en fait, quand on a commencé à fouiller en 2020 dans la carrière, c'était un peu par hasard. On voulait commencer à monter un chantier de fouilles et on s'est retrouvés dans la carrière un peu par hasard avec Michael Landolt, et on savait pas trop ce qu'il y avait comme vestige, si c'était intéressant ou pas. En fait, on avait le même biais que la plupart des gens. Comme on n'en parlait pas de cette carrière, qu'elle était totalement oubliée même dans les livres sur le camp Natzwiller, on se disait bon, je suis pas sûre qu'on va y rester très longtemps. Et en fait, après un premier mois avec les étudiants, on s'est rendu compte qu'il y avait encore plein de bâtiments, qu'il y avait tout était recouvert par la végétation, et que c'était un peu l'espace oublié du camp, aussi bien spatialement, parce que c'est pas un espace mémoriel, il n'y a pas de panneau, c'est pas là qu'on va quand on va visiter le camp, mais aussi dans la mémoire, qu'il y avait un espèce, oui, d'omerta, d'oubli. Donc en partie, mon sujet de thèse et les recherches archéologiques, c'est un peu une volonté de remettre en avant un oubli dans l'histoire du camp Natzwiller. Et en plus, cette carrière, elle est super importante, parce que c'est un peu la raison de la création du camp. Donc il y a des raisons économiques, des raisons industrielles, c'est pour ça qu'on va créer le camp de concentration. Et c'est aussi un endroit qui est finalement un peu perméable, où il y a à la fois l'intérieur du camp, les déportés, et l'extérieur avec les civils. Et je trouve ça aussi important de réhabiliter l'histoire de ces civils et de refaire un lien entre la vallée, les habitants et le camp. Donc il y a un peu tout ça qui se mélange.
Et c'est des auditeurs qui nous entendent et qui ont un témoignage, une anecdote, peut-être un objet ou des documents, des photos, ce que vous cherchez, qui veulent vous contacter, entrer en contact avec vous. Ça se passe comment ?
Alors, soit par mail, donc c'est juliette.brange@archeologie.alsace, soit c'est possible aussi d'appeler à l'accueil d'archéologie Alsace à Célesta ou à l'accueil du CERD à Natzwiller. Voilà, ils sauront me transmettre l'info.
Juliette Brange, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions.
Mais merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.